Boker Tov, les Koulam. On revient dans notre étude de la Yeshiva Online sur l'histoire de la Kabbalah. Serait-il possible, David, de recevoir les cours? Les cours 2.
Envoyez-moi un WhatsApp. Madame Ribon, envoyez-moi un WhatsApp.
Tov. Donc nous revenons dans notre étude sur l'historique de Torah à Kabbalah. Et la semaine dernière, nous avons passé en revue 300 ans d'histoire, qui était la période depuis Shimon HaTzadik jusqu'à Hillel HaZaken. La période qu'on a appelée la période des Zougot, une période très particulière où nous sommes avec le Beth Amikdash, mais sans la prophétie. Et donc, c'est là le point de départ de Torah Takabbalah, qui, comme on l'avait déjà expliqué, je le rappelle, n'est que les restes de la prophétie. C'est-à-dire que la Kabbalah, eh bien, c'est la traduction dans un langage intellectuel de ce que les prophètes vivaient et ressentaient. Donc, bah, une fois que, tant qu'il y a prophétie, il n'y a pas de Kabbalah, puisqu'il y a la prophétie, qui en elle-même est une Kabbalah. Vous avez bien compris que la Kabbalah, c'est recevoir de là-haut. Donc, tant qu'il y a la prophétie, eh bien, la Kabbalah, c'est la prophétie. Et une fois que la prophétie s'arrête, eh bien, nous avons vu les points de départ de la Kabbalah. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre époque, une époque qui va s'étendre, on va dire, sur, allez, 200 ans cette fois. Et cette fois, nous sommes dans la période, allez, encore une fois, on est à la louche entre les années 0, ouais. Allez, 0 et 180. 0, 200. D'accord? C'est cette période qui nous intéresse. Cette période est fondamentale. D'abord, j'aimerais la replacer au niveau historique. Qu'est-ce qui se passe dans cette période pour nous? Et ensuite, on va voir quels vont être les acteurs majeurs de la transmission de cette Torah Tasson. Eh bien, au niveau historique, qu'est-ce qui se passe entre les années 0 et 200? C'est peut-être l'une des périodes où il y a le plus d'action. Puisque la pseudo-période de tranquillité due à la dynastie de Hérode est terminée. Les Romains sont les patrons de la terre d'Israël. Alors, ils sont les patrons de la terre d'Israël, ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore détruit Israël, mais ils sont présents et ils sont de plus en plus présents. Le Beth Amikdash est toujours là. Mais ça devient une coquille vide. Baït Saruf Sarafta, dira le prophète Jérémie, en parlant du second Beth Amikdash, en prophétisant le second Beth Amikdash. Nous sommes dans les dernières années du Beth Amikdash à Chéni. Et il faut bien comprendre une chose. Ces années font une telle dissonance entre l'intérieur et l'extérieur que ça sera difficile de ne pas voir la corrélation avec nos générations à nous. Je voudrais que vous compreniez bien ça en vous parlant d'un nouveau travail qui existe malheureusement, Rahmana Litlan, dans le monde occidental aujourd'hui. Que vous compreniez bien de quoi on parle. Aujourd'hui, il y a des difficultés à avoir sa parnassa dans plein de domaines. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Mais il y a un nouveau métier, un métier fantastique, où tu ne fais rien du tout et tu gagnes énormément d'argent. Ce métier s'appelle en français être influenceur. Qu'est-ce que ça veut dire être influenceur? Eh bien, ça veut dire se prendre en vidéo et en photo de manière complètement dénudée, en partiel ou complètement, montrer sa vie de manière complètement extérieur, et voilà, et les gens regardent ça et sont complètement fans de cela, et donc tu as des millions d'abonnés, et donc tu es payé par les réseaux sociaux, par YouTube, par tout ce que tu veux. Il y a une dérive fantastique aujourd'hui, c'est que ces réseaux sociaux officiels, eh bien, mettent quand même une certaine censure, que tu n'as pas le droit d'être tout nu. Qu'à cela ne tienne, d'autres sites ont proposé ces services-là, où maintenant tu te photographies, tu te prends en vidéo nu et tu l'envoies à tes fans et tu gagnes encore plus d'argent. On a une société où le paraître est devenu, eh bien, l'essentialité des revenus. Et c'est absolument terrible. Les amis, toute ressemblance avec ce qui s'est passé, oui, Dada Selfie, bien sûr, tout ce qui s'est passé, tout ce qui, une ressemblance avec tout ce qui s'est passé il y a 2000 ans, eh bien, alors évidemment, on n'est peut-être pas à ce niveau-là au niveau de la nudité, quoique dans l'Empire romain, ce n'étaient pas les gens les plus tsnouim du monde, mais le Bayt Sheni, dans sa fin de vie, dans ses 70 dernières années, est un endroit magnifique, magnifique d'architecture, à tel point que les Chachamim, qui n'aimaient pas Hérode, vont être obligés de reconnaître celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode, n'a pas vu une belle construction de sa vie. Mais l'intérieur du Beth Amikdash est vide. Qu'est-ce que ça veut dire vide ? Les Kohanim sont corrompus. La Keuna Gedola s'achète chez les Romains. Le Zerem, si vous voulez, la tendance principale chez les Chachamim, ce ne sont justement pas les Chachamim, mais bien les Sadducéens, les Tzdoukim, qui ont rejeté la Emouna dans la Torah Shebealpé, qui ont rejeté la Emouna dans le Olam Haba, qui ont rejeté la Emouna dans l'éternité. Et donc, si vous voulez, nous avons une réalité qui est évidemment, évidemment influencée par Rome, où c'est le paraître et l'instantané qui est maître à bord. Dans cette réalité du monde, eh bien, il va falloir réagir et il va falloir que HaKadosh Baruch Hu nous envoie des Chachamim qui vont nous faire le contrepoids de cela. Donc, ça, c'est la première partie de cette période-là, de ces années, on a dit 0-200. La partie, la période Beit HaMikdash. Et puis, vous le savez bien, en l'an 70, il y a la destruction du Beit HaMikdash. Et nous avons une deuxième période qui se met en place, la période de transition où les Romains sont les patrons, mais on n'a pas encore dit notre dernier mot. Et enfin, il y a la troisième partie, c'est après la révolte de Bar Korva, où là, la question de qui est le dominateur de la région, eh bien, n'est plus une question. Les Romains, c'est eux les patrons, et nous n'avons plus notre mot à dire, et il va falloir, eh bien, survivre. Quand je dis survivre, je parle au niveau spirituel, et donc nous avons ces trois périodes-là de Beit HaMikdash vide, mais Beit HaMikdash quand même, résistance et faire avec. Ok ? Voilà les trois grandes périodes que nous allons traiter aujourd'hui. Et donc, les Chachamim qui sont présents à ce moment-là, vous allez voir que leur Torah va devoir également répondre à cela. La personnalité peut-être qui est la plus centrale de la période Beit HaMikdash, eh bien, c'est la personnalité de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai et ses deux élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabban Yochanan ben Zakkai va insuffler l'idée que même quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà le grand chidouche, si vous voulez, de cette Torah qui arrive à ce moment-là. Rabbi Yochanan ben Zakkai va faire face à Rome et on connaît son histoire où il va se faire passer pour mort et il va sortir au devant de Vespasien et il va lui dire « tu vas être César ». Vespasien va être chamboulé, il va lui dire « écoute, demande-moi ce que tu veux ». Et il demande Yavné et ne demande pas Jérusalem. J'aimerais qu'on s'arrête deux petites secondes sur cet enseignement-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai ? Il nous dit, maintenant, nous devons faire de la Torah, et donc, voilà le secret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, nous devons faire de la Torah la dimension de Netzar. Elle ne peut pas s'arrêter au gré des persécutions romaines. il faut que la Torah ait une dimension d'éternité. D'éternité. Ah, voilà le grand message de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ses deux élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, ont très bien compris et vont avoir l'une des machlokotes les plus essentielles du judaïsme. Quelle est la machlokette la plus... Ils sont tout le temps machlokettes. Hein. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont d'accord sur rien. Mais la machlokette la plus centrale entre deux, c'est une machlokette qui, a priori, parle d'un sujet qui n'est pas très, très intéressant. À savoir, si jamais eh bien, un four construit de disques d'argile posés les uns sur les autres, est-ce qu'un four comme celui-là peut les kabel touma ou peut ne pas ou ne peut pas le kabel touma? Mais là, vous êtes en train de vous dire, mais attendez, le cours s'appelle Torah ta Kabbalah. Pourquoi le Rav Fizon nous parle d'une machloquette qui est ultra Torah ta niglé, c'est-à-dire Torah du Talmud? Machloquette, est-ce que ça peut recevoir touma ou pas recevoir touma? C'est une machloquette comme il peut y en avoir dans beaucoup d'autres, bien sûr. Mais le problème, c'est que de cette machloquette, ce qui en ressort n'est absolument pas la question du four. Le four est un prétexte. Le four est un prétexte. Et alors, au niveau de la halakha, on va te dire « Uken yechol lekabel touma ». Bon, et alors? Ça, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais on s'en fiche. C'est un prétexte. Pourquoi? Eh bien, parce que Rabbi Eliezer, pour amener ses arguments, utilise des moyens surnaturels. On connaît l'histoire, il a fait déraciner un caroubier, ensuite il a fait remonter le cours du fleuve, enfin de la comment dire en français, de l'aqueduc. Ensuite, il a fait pencher les murs du Beth Amidrash jusqu'à faire intervenir une voix du ciel. Ce sont des moyens complètement surnaturels. Et à ces moyens surnaturels, Rabbi Yehoshua répond: non, la Torah n'est plus dans le ciel. Donc, on ne peut pas utiliser des moyens surnaturels. L'un parle de Torah Tassod, l'autre parle de Torah Taniglé. Donc, évidemment que la halakha, elle est comme Rabbi Yehoshua, qui utilise tous les éléments de la Torah, de la halakha. Mais Rabbi Eliezer, qu'est-ce qui reste de lui? Eh bien, il reste que, à la fin de cette histoire, Rabbi Nathan va demander à Eliyahu Hanavi, parce que le lendemain, il a rencontré Eliyahu, normal, et il lui demande, quand on était en machloquette hier, qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux? Et Eliyahu de répondre que Dieu a répondu, « Nitzruni banai ». Mazé Nitzruni banai, alors ils m'ont vaincu. Non, ils ont fait de moi Netzach. Le fait de maintenant ne pas pouvoir faire abstraction de Torah Tassod fait que maintenant le Netzach va pouvoir se mettre en place. Puisque ce monde-ci, à l'époque de Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, devient l'apanage des Romains, il va falloir se réfugier dans une Torah d'éternité qui va nous permettre de passer l'exil. Les amis, c'est cela le message de la Kabbalah à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. La Torah de la Kabbalah a pour rôle de nous permettre de traverser l'exil. Cette dimension d'éternité pour revenir à une époque de prophétie. Celui qui va relever le défi, celui qui va être l'homme de la situation, eh bien, c'est l'élève de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. C'est le personnage dont on va parler maintenant. Il s'appelle, vous le connaissez toutes et tous, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est l'élève de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua et il est le plus grand kabbaliste de l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Rabbi Akiva, on le connaît par cœur. On connaît tous, il y a des histoires à n'en plus finir sur Rabbi Akiva, pas de problème. Mais j'aimerais quand même qu'on se rappelle d'une chose. Rabbi Akiva atteint une dimension que Moshe Rabbeinu n'atteint pas. Nous raconte le Midrash que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe avant de mourir, tu peux aller voir toutes les générations. Et Moshe est parti dans un portail spatio-temporel pour aller voir toutes les générations. Et un jour, il rentre, à un moment donné, il rentre dans le Beit HaMidrash de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva est en train d'enseigner les Ktarim sur les Otiyot. De quoi on parle ? Il est en train de, vous savez, dans le Sefer Torah, des fois, il y a des tagim. Il y a des petites couronnes, des petits points, des petites choses qu'on met sur les lettres de l'alphabet. Et Moshe demande, mais il ne comprend pas. Il n'a jamais vu ça. Rabbi Akiva fait son shiur. Moshe est dans la salle et ne comprend pas. Un des élèves, semble-t-il, ne comprend pas non plus et pose la question à Rabbi Akiva. « Mais dis-moi, Rabbi, d'où ça vient ?» Et Rabbi Akiva de répondre cette phrase incroyable. « Alakha le Moshe Misinaï. » On tient ça de Moshe. Sauf que Moshe, il n'a pas compris. Et donc, je pose la question. Mais quoi, Moshe, il a transmis ces halakhot ou il ne les a pas transmises ? Eh bien, Moshe les a transmises, sauf qu'il n'était pas conscient qu'il les avait transmises. Rabbi Akiva va nous enseigner que tu es le tsinor, le tuyau qui permet de faire passer la transmission. Et des fois, il y a des choses qui passent dans ton enseignement que tu n'es même pas au courant que tu as fait passer. L'éternité est en train de passer. Rabbi Akiva va réussir à atteindre le Sha'ar Hanoun. C'est-à-dire quoi le Sha'ar Hanoun ? 50 degrés de Bina, de compréhension, de discernement, ont été mis dans le monde. Moshe ve'am Israël atteignent 49 degré de Bina. Celui qui va dévoiler au monde le 50e, c'est Rabbi Akiva. Comment ? Le Talmud, dans le traité de Chagiga, nous raconte cette histoire, je ne sais pas si elle est connue ou elle n'est pas connue, mais enfin bon, nous raconte cette histoire avec ces quatre hommes qui sont rentrés dans le Pardès. Nous sommes dans le Talmud à la page 14 du traité de Chagiga, Amoud Bet, et nous raconte le Talmud comme cela. Tanu Rabbanan, Arba Nichnesu Bapardes. Et qu'est-ce que c'est le Pardès ? Pshat, Remez, Drash, Sod. Mais vous comprenez bien que le Pardès, c'est une dimension dans laquelle je suis connecté avec en haut. Alors, on nous dit que Arba Nichnesu la Pardès. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, regardez. Veloem Ben Azaï, Ben Zoma, les deux s'appelaient Shimon, donc on avait l'habitude de ne pas les appeler par leur prénom, mais juste par leur nom de famille. Shimon Ben Azaï et Shimon Ben Zoma. Acher, qui n'est autre que Elisha Ben Abouya, Verabi Akiva. Amar Lahem Rabbi Akiva, Kshatem Magim et Sel Avne Shaish Tahor. Al tomeru maim maim. Mishum shenemar davar shekarim lo yachon leneged enai. Rabbi Akiva les met en garde. Lorsque vous arriverez dans cet endroit de Shaish Taor, c'est-à-dire Bet Amigdash Shel Mala, ne demandez pas maim maim. C'est-à-dire ne pensez pas que vous êtes maintenant là pour comprendre tous les pourquoi. Comprenez que le mot « maïm », ce n'est pas seulement « je veux de l'eau ». Vous savez qu'en hébreu, « maïm », c'est un pluriel. C'est le pluriel du mot « ma ». « Maïm », c'est tous les pourquoi par excellence. « Maïm », c'est le monde de la question. Vous remarquerez d'ailleurs que Dieu n'a pas créé « maïm ». Dans la création du monde, on ne nous parle pas de la création de l'eau, pas du maïm. On dit Ruach Elohim merachefet al pene ha-maim. Mais d'où elle vient cette maim? Après on nous dit Vayavdel vayirakia betoch ha-maim. Il y a une séparation dans les eaux, mais d'accord, mais d'où elle vient l'eau? On nous dit pas. C'est la dimension la plus première, ha-maim, ha-ma par excellence. Et donc, Rabbi Akiva nous dit, lorsque tu arrives là-bas, ne pense pas que tu es arrivé dans un monde où tu ne fais que poser la question. Parce que la question, si tu veux comprendre sa réponse, il faut que tu sois relié en haut et en bas. C'est de cela qu'on parle. Regardez. Mishum she'amar, ça on a dit, Benazai etzit vemet. Alav ha-katuv omer, yakar b'enei Hashem amavta l'chassidav. Ben zoma etzit venifga. Ve'alav ha-katuv omer dvash mitzet. חלדיר פן תשבנו והקעתו אחר קיצץ בנטיות ורבי עקיבא יצא בשלום ונכנס בשלום. Donc si on y réfléchit de petites secondes, eh bien en fait nous avons Ben Zoma, Ben Azai est mort. Ben Zoma a été blessé. Acher est sorti Acher et Rabbi Akiva a été pépé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où se trouve ce midrash? Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas un midrash, c'est dans le Talmud, dans le traité de Chagiga, à la page 14, au verso. Les amis, de quoi on parle? Il y a dans la Torah de la Kabbalah une notion qui va être dévoilée par Rabbi Akiva qui s'appelle Ratso Vashov. Cette dimension de tout le temps aller vers en haut et revenir d'en haut. Eh bien, en vérité, ces quatre personnages ont chacun une perception différente du Pardès. Il y en a un qui s'appelle Ben Azai. On nous dit « Etzitz vemet », il est rentré et il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Ben Azai, il ne veut que Ratso. Il veut monter, mais il ne veut pas rentrer. Ben Azai, il est monté, c'est ce qu'il voulait. Et il ne voulait pas repartir. Il est monté, il est mort. Il y en a un qui s'appelle Ben Zoma, on nous dit Etzitz Venifga. Il est Ishtagea. Pourquoi Ishtagea? Parce que Ben Zoma, il veut ni Ratso, ni Shov. Il ne voulait pas monter, semble-t-il que Ben Azai l'a amené avec lui. Et il ne voulait pas redescendre parce qu'une fois qu'il était en haut, il a compris que c'était fantastique, mais il est pas clair. Il ne sait pas s'il veut être lié au Elyonim ou s'il veut être lié au Tartonim. Nivga. Il est ni là, ni là. Comme on dit en yiddish, nishtahin, nishtaher. Et puis il y a Acher, Elisha ben Abuya. Elisha ben Abuya, on dit kitsetz ben etiot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a coupé la racine. C'est-à-dire que Elisha, il est monté. Pourquoi? Pour couper la racine. Pour ne plus être relié avec en haut. Il ne veut que ici. Il a ses raisons, on ne va pas rentrer sur Elisha ben Abuya. Et Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. Veyatsa Beshalom. Venichnas Beshalom. Parce que Rabbi Akiva, il veut Ratso et Shov. Parce que Rabbi Akiva, il comprend qu'il faut survivre dans ce monde grâce à la dimension d'éternité que nous donne le monde d'en haut. Ainsi donc, Rabbi Akiva va se mettre à écrire des choses. Rabbi Akiva, pour transmettre cette réalité-là, va se mettre à écrire des Sfarim. Enfin, des Sfarim, particulièrement un. Dans cette époque-là, cette époque du 1er siècle et du 2e siècle, eh bien, nous avons ce qu'on appelle Safrut à Echalot. Mazé Safrut à Echalot. Eh bien, il y a plusieurs textes qu'on a mis ensemble en appelant les textes de, comment on dit, Echalot. Echal, c'est des grands palais, les textes des palais, parce que ce sont des textes qui ont été écrits par les Tanaïm, par la génération de Rabbi Akiva, et qui parlent de manière générale, eh bien, de la dimension de là-haut, Bet Amigdash Shel Mala. Parmi ces textes, on va avoir Braïta de Maase Bereshit. C'est un des plus connus. On va avoir également un autre texte qui s'appelle Sefer Arazim. Et on va avoir, on va en avoir d'autres évidemment, par exemple Sefer Shi'ur Koma, Maase Merkava. Ce sont des livres, on ne sait pas vraiment qui les a écrits, mais ils datent de cette période-là et nous parlent, pour la première fois d'ailleurs, du dévoilement divin, mais pas tel qu'il est perçu ici, mais dans une dimension purement théorique. Encore une fois, se rattacher à la dimension d'éternité. Seulement, le livre qui va être le plus retentissant, eh bien, c'est Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, eh bien, la tradition d'Israël veut que celui qui l'a énoncé pour la première fois, c'est Adam Arishon. Celui qui l'a compris, c'est Avraham Avinu. Et celui qui l'a mis par écrit, c'est Rabbi Akiva. Shavmaz et Sefer Yetzira. Qu'est-ce qui nous apprend ce livre-là ? Eh bien, Sefer Yetzira, d'abord, est très différent de tous les autres livres que j'ai pu citer avant. Sefer Yetzira compte 2000 mots. Et il s'occupe de comment le monde a été créé. Ni plus ni moins. C'est tout un programme. Mais pas comment le monde a été créé tel que c'est représenté dans la Torah, mais comment, c'est-à-dire avec quelle technique le monde a été créé. Si bien que si tu comprends Sefer Yetzira, toi aussi tu peux créer. Ainsi, le Talmud va nous raconter cette histoire incroyable. Dans le Talmud de Babylone, eh bien, on nous raconte la chose suivante. On va nous raconter, on est dans le Talmud Bavli, pour être exact, Maseret Sanhedrin à la page 65. Eh bien, là-bas, on nous raconte l'histoire de deux Chachamim. Deux Chachamim, l'un s'appelait Rabbi Hanina et Rabbi Hoshaya. Et ils étaient assis tous les deux, Erev Shabbat, donc avant Shabbat, et ils étudiaient Sefer Yetzira. Juste avant qu'arrive le Shabbat, eh bien, fort de leur étude, ils ont réussi à créer un veau magnifique. Ils l'ont donc chérité et ils se sont préparés leur repas de Shabbat avec. Pourquoi pas ? Mais vous comprenez de quoi on est en train de parler. Sefer Yetzira nous révèle le comment du pourquoi. Après que Rabbi Akiva nous a expliqué qu'il ne faut pas seulement regarder le pourquoi, alors on va nous révéler le comment du pourquoi. La Torah, le texte de la Torah, elle nous enseigne le pourquoi du comment. C'est toute la différence. Rabbi Akiva est donc celui qui va mettre en place cette réalité d'éternité au travers de textes, mais au travers d'enseignements. Comment ? Eh bien, Rabbi Akiva nous enseigne que pour pouvoir atteindre cette dimension de transmission et d'éternité, tu as besoin d'un klal qui est Gadol Batorah. L'enseignement de Rabbi Akiva sera que « Ve'ahavta l'ereacha kamocha zeklal Gadol Batorah ». Vous savez, quand on demande aux enfants, particulièrement s'ils sont dans des endroits, dans des ganes ou dans des trucs rabades, eh bien, les enfants, et les miens les premiers, pensent que cette phrase, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ça vient de Rabbi Akiva. Ben oui, parce qu'ils chantent Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Zeklal Gadol Batorah. Bon, d'accord. Seulement, Ve'aftal et Re'acha Kamocha, c'est une phrase de Moshe Rabbeinu. C'est d'abord une phrase de la Torah. Ce que Rabbi Akiva a rajouté, c'est qu'il a dit Zeklal Gadol Batorah. Aval Mazé Omer. Ça paraît une évidence que Ve'ahtalerecha kamocha, ça doit être un grand principe. Me disait le Rav Tzvi Yehuda Kouk, au nom des Chachmei HaMekoubalim, que ça veut dire quoi que Amar Rabbi Akiva Ve'ahtalerecha kamocha zeklal batora, klal gadol batora? Il dit comme ça, la virgule, tout est dans la virgule. Ve'ahtalerecha kamocha zeklal virgule gadol batora. C'est-à-dire, tu veux savoir si la personne en face de toi est gadol batora, dehainu, mekoubal, est-ce que sa Torah, son principe fondateur, c'est ve'ahavta le'recha kamocha? Si son principe fondateur, ce n'est pas ça, alors c'est lo gadol batora. On ferait tellement bien de faire ce principe-là aujourd'hui, de l'appliquer pour les rabbanim d'aujourd'hui. Est-ce que, comment tu sais si un rabbin est gadol ou pas gadol? Est-ce qu'il passe son temps à dénigrer les autres ou pas? Est-ce qu'il passe son temps à rassembler Klal Israël par ses enseignements ou pas? C'est-à-dire, Zeklal Gadol Batora. Et donc, Rabbi Akiva a posé les bases. Très bien. Rabbi Akiva, qui a mis les bases de l'éternité, peut donc, lorsqu'il voit la destruction du Beth Amikdash, alors il est jeune à ce moment-là, hein. Pendant la destruction du Beth Amikdash, il a 70 ans, un petit jeune. Lorsqu'il voit la destruction du Beth Amikdash, eh bien vous connaissez cette histoire qui nous est racontée dans le Talmud, dans le traité de Makot, où il voit le Beth Amikdash détruit avec ses copains, et il pleure, et lui il rit, vous connaissez l'histoire. Mais ce qui lui permet de rire, c'est justement cette dimension d'éternité qu'il a atteint. Parce qu'il sait que le Beth Amikdash sera reconstruit et pas comme une coquille vide, alors ça lui permet de passer la période de l'exil. Rabbi Akiva, cette dimension de Ve'ahavta le'recha kamocha qui est le tenant pour faire transmettre cette Torah profonde, eh bien, il l'a vécu al Bessaro. Puisque je vous rappelle quand même que Rabbi Akiva va être le malheureux maître de 24 000 élèves qui n'ont pas compris. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait absolument rentrer dans le cœur de tout le monde. Rabbi Akiva a échoué avec ses 24 000 premiers élèves. 24 000 élèves, nous dit le Talmud dans le traité de Yevamot, 12 000 élèves zugim talmidim ayu lo le Rabbi Akiva. Il avait 12 000 couples d'élèves, donc 24 000. Ve'kulam lo na'agu kavod zebaze. Et chacun de ces couples ne se respectait pas l'un l'autre. Tu es Rabbi Akiva et tu as réussi à avoir une yeshiva de 24 000 élèves, c'est pas mal. Seulement, le message de Zeklal Gadol Batora, il n'est pas passé. Et ces 24 000 élèves vont mourir. Vont mourir où ça? Bah, comme tout le monde le sait, durant la guerre de Bar Korva. Et oui, les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas morts d'un rhume, ni d'une espèce de corona avant l'heure. Ils sont morts de la guerre de Bar Korva. Et Rabbi Akiva voit non seulement la destruction du Beth Amikdash, mais il est le rabbin central de cette période qu'on a appelée la période de « on ne va pas se laisser faire ». Il n'y a plus le Beth Amikdash, les Romains nous ont détruit cela, mais on est prêt à la révolte. Rabbi Akiva va d'ailleurs accompagner Rabban Gamliel dans ce qu'on appelle « Mered Atfutsot » en l'an 117. Il va faire le tour des communautés de la Méditerranée pour les faire se réveiller contre Rome. C'est un mered qui va durer un an et demi. Une révolte qui ne va pas trop marcher. Et finalement, il ne sera pas l'instigateur, mais le soutien premier de la révolte de Bar Korva en l'an 132 jusqu'en 135. Il dira même de Rabbi Akiva, dira même de Bar Korva qu'il est le Mashiach. Il le soutiendra complètement dans cette révolte. Et finalement, voyant que ses élèves n'ont pas intégré son message, juste avant de mourir, Rabbi Akiva va former la nouvelle génération. Il part et c'est le Rabotenu chez Badarom et il va former 5 nouveaux élèves. Et c'est assez incroyable, mais ces 5 élèves, il leur donne chacun un rôle. Il s'appelle Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua, Rabbi Hanania, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Les 3 premiers, il va les mettre en avant et il va leur donner comme rôle de transmettre la Torah orale, la Torah aniglée. Rabbi Yehuda en tête sera le Rosh HaSanhedrin. C'est lui qui est à 80% à la halakha comme lui. Et puis, il y a ces 2 derniers élèves, c'est ceux qui vont nous intéresser dans notre étude à nous. Ils s'appellent Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Rabbi Meir Baalanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. D'un point de vue de la Kabbalah, les 3 premiers sont Nefesh, Ruach ou Neshama, alors que Rabbi Meir et Rabbi Shimon seront Chaya et Yechida. Rabbi Shimon Chaya, Rabbi Meir Yechida. De quoi parle-t-on? Il s'agit maintenant de faire face à un nouvel état, une nouvelle réalité. On ne peut plus se révolter contre les Romains. Ça y est, on a perdu. Et maintenant, comment on fait pour survivre? Rabbi Meir, Rabbi Shimon vivent une époque terrible qui est l'époque de la reconstruction. Il faut ramasser les morceaux après la défaite de Bar Kokhba. Vous comprenez que ils sont vivants à l'époque de Bar Kokhba. Ils sont là, certainement ils faisaient partie des combattants. Ils deviendront les leaders du peuple juif après. Et donc leur Torah est une Torah de reconstruction. Rabbi Meir, c'est une Torah fantastique, mais qui ne sert que de point de repère au loin. Puisqu'on ne peut pas suivre la vie de Rabbi Meir dans la halakha, « Ki lo yardou chaverav lesof da'ato » nous dit le Shulchan Aruch. Parce qu'il est tellement profond qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Donc on sait qu'il y a une lumière énorme, mais elle n'est qu'au loin. Dans son Sefer Torah, Rabbi Meir, « Kutnot or » ne sera pas marqué des tuniques de peau que Dieu a fait à Adam et Chava, mais coûte notre or, non pas avec un haïn, mais avec un aleph, de la lumière. Il est Meir, ce Rabbi Meir. D'ailleurs, il est le seul qui arrivera à sortir de Elisha ben Abouya le dernier vestige de Kedusha qu'il y avait en lui. C'était son maître. Elisha ben Abouya était le maître de Rabbi Meir. Et n'oubliez pas que Elisha ben Abouya, avant de tomber, était un géant, était un des plus grands maîtres d'Israël. Et donc Rabbi Meir arrive à rester son élève, à prendre ce qu'il y a à apprendre, à ne pas prendre ce qu'il y a à pas prendre. Jusqu'à ce qu'à la fin de sa vie, lorsque Elisha ben Abouya meurt, Rabbi Meir lui demande « Oulai tarzor bitchouva ?» Allez, juste avant de mourir. Et Elisha ben Abouya lui dit, je suis monté là-haut et j'ai été voir derrière le pargode, derrière les coulisses. Et j'ai entendu une voix qui a dit, Acher en lo chelek leolam haba. Donc, laisse tomber. Rabbi Meir lui répond « Acher en lo chelek l'olam haba » Mais Elisha ben Abouya « Yesh lo » Il faut juste que tu retrouves ton identité d'éternité. Ah, il a compris le message de Rabbi Akiva. Nachon, Il a totalement compris Rabbi Meir. Mais ce n'est pas lui qui va le transmettre. Celui qui va le transmettre, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, et vous commencez à comprendre que la semaine prochaine, nous allons nous concentrer uniquement sur Rabbi Shimon et le Sefer HaZohar, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, ne nous trompons pas, ce n'est pas un personnage mystique. Rabbi Shimon Bar Yochai est un personnage qui est complètement ancré dans ce monde. S'il a dû s'enfuir dans la grotte, ce n'est pas parce qu'il aime les grottes. C'est parce qu'il était poursuivi par les Romains. Et pourquoi il était poursuivi ? Parce qu'au lieu de rester dans un monde purement théorique, eh bien, il a décidé de prendre parti et de dire « Non, les Romains, c'est des pourris ». À la fin de sa vie, Rabbi Shimon, une fois qu'il aura dévoilé le Zohar, il ne va pas rester dans sa tour d'ivoire. Il redescend complètement dans ce monde et va s'occuper de purifier tous les endroits autour de Tibériade pour savoir où est-ce qu'on peut aller, les Kohanim, pas les Kohanim, parce qu'il y avait énormément de Juifs qui avaient été tués là-bas et on ne savait pas où les cadavres avaient été enterrés. Et donc, on ne savait pas où c'était tamé ou c'était pas tamé. Rabbi Shimon a fait de centimètre en centimètre pour ramener une réalité concrète dans ce monde. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est également Sefer HaZohar. Sefer HaZohar, et la semaine prochaine, on va rentrer en profondeur dans ce livre-là. Sefer HaZohar a un but. Comme on l'a dit, permettre de traverser l'exil. C'est marqué tout simplement noir sur blanc dans le Zohar. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est en étudiant ce livre, Sefer HaZohar, que Israël sortira d'exil, Berachamim. En d'autres termes, Rabbi Shimon, sous l'impulsion de son maître, va nous donner le moyen de nous rattacher à l'éternité alors que nous sommes dans une période qui doit s'arrêter, qui doit disparaître. C'est l'antithèse de la réalité. Et c'est pour ça que la Torah Takabala, à partir de ce moment-là, a été perçue comme étant quelque chose de mystique, comme quelque chose qui n'est pas rattaché à ce monde. Il y a ce monde et puis il y a la Kabbalah. Mais en fait, ce n'est pas que ce n'est pas rattaché. C'est complètement rattaché seulement au monde de la Géoula et non pas au monde de l'exil. Donc, tant qu'on vit en exil, eh bien, on a l'impression que la Kabbalah est complètement détachée. C'est juste qu'en vérité, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas la Kabbalah. Ce qui n'est pas normal, c'est le monde de l'exil. Et donc, cette Torah-là va nous apprendre comment on réussit à traverser cette période-là pour pouvoir sortir d'exil et retrouver une identité normale. Ça y est, donc la semaine prochaine, nous pourrons rentrer directement dans le livre du Sefer HaZohar, de voir ses différentes parties, de voir comment il est construit pour essayer d'en sortir quelque chose. Il est 10h moins le quart, l'heure pour moi de vous laisser rouvrir le micro et c'est le moment des questions, si je ne me trompe. Donc vous ouvrez vos micros s'il y a des questions. Oui, Yocheved, il faut ouvrir ton micro. J'entends,
on peut
pas ouvrir le micro.
C'est ma faute. Ça y est,
vous pouvez
ouvrir le micro.
C'est bon, vous pouvez.
La dictature.
On passe en démocratie.
Rabbeinu, j'ai une question sur le, oui, sur le sujet du cours précédent. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le cours d'aujourd'hui et pour l'instant, j'ai besoin de clarifier quelque chose du cours précédent. Et vous nous avez dit que la prophétie. Que les sages disent que la prophétie avait cessé lorsque Alexandre le Grand a conquis.
Voilà, tout à fait.
Et qu'il y a cet épisode où, lorsqu'il arrive à Jérusalem, il est accueilli par Shimon Tzadik et Alexandre le Grand se prosterne. Et il explique pourquoi il se prosterne, c'est parce que pendant
tout à fait.
Plusieurs,
cette silhouette.
Hier, il avait vu la silhouette de Shimon Tzadik dans son rêve. Et quel est le sens de ce message? Quel est le message? Quel est le sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les sages nous disent cela?
Ça veut dire que...
Pourquoi c'était si important que Shimon HaTzadik lui apparaisse dans le rêve avant que l'histoire arrive à ce stade-là?
Eh bien, ça veut dire tout simplement que même
si permettez-moi, le monde... je fais un lien ici avec le livre de Kuzari autour du rêve.
Oui, bien sûr.
Oui.
C'était fondamental que le judaïsme comprenne que l'Occident va avoir un rôle à jouer maintenant dans la suite du dévoilement. Alexandre le Grand, c'est l'Occident, c'est la volonté expansionniste de Yefet. Et donc, il est fondamental que Shem comprenne quel est le rôle que Yefet a à jouer. Puisque dans la Torah, on va nous dire Yafutefuto shel Yefet veishkon be'oale Shem. C'est-à-dire qu'il faut que le représentant de Shem, à savoir Shimon HaTzadik, donne la bracha à Yefet et à son représentant Alexandre le Grand pour comprendre qu'ils doivent travailler de pair. Bien sûr que nous avons un grand problème avec ce qui va devenir le monde grec, le monde romain, mais d'un autre côté, il y a aussi plein de choses positives. Et ça va être toute la dualité entre les deux qu'il va falloir être capable de faire. Shimon HaTzadik comprend que se battre contre Alexandre, ce n'est pas une bonne idée. Pas seulement parce qu'on n'a aucune chance, mais aussi parce qu'il y a quelque chose de vrai qui va être amené par le monde occidental. D'accord ? Et le fait que Shimon HaTzadik le bénisse montre qu'il n'est pas dépassé par lui. Et que donc, tu as toujours la main mise. Tu n'as pas peur de ce qui va amener. Tu es capable de faire la différence entre ce que tu dois prendre et ce que tu dois jeter. D'accord ?
Est-ce qu'on fait un rapprochement ? Est-ce que les sages rapprochent cette manière de formuler cet enseignement avec avec le livre de Ravi Halavi ?
Non, bah les sages du Talmud ne peuvent pas relier ça.
Oui.
Mais la notion du rêve, si vous voulez, la notion du rêve est développée chez Rabbi Yehuda Halevi pour nous expliquer que ça fait partie de l'inconscient qui est primordial chez l'homme. Le rêve, c'est ce qui me permet de me rattacher à cette dimension d'éternité qu'on a évoquée aujourd'hui. Donc oui, le fait que Alexandre ait vu Shimon dans le rêve, ça montre que lui aussi, il est capable de s'attacher à l'éternité.
Alors, il y a une question de Meira.
Oui, Meira.
Oui, s'il vous plaît, Rav, vous avez dit le pourquoi et le comment. Vous avez dit pour que le comment soit le pourquoi. Oui. Ça, je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter?
Je vais vous expliquer très simplement. La Torah commence par le mot Bereshit, qui veut dire Bishvil Reshit, tel que nous dit Rashi. Bishvil Reshit, ça veut dire c'est pour le Reshit que Dieu créa le ciel. Ce qui veut dire que si la Torah commence en nous disant c'est pour ça, elle vient répondre à la question pourquoi. Donc je dis la Torah est écrite dans un sens où elle vient donner la réponse du pourquoi au comment. C'est-à-dire Dieu a créé le monde, mais il ne nous explique pas comment dans la Torah. La Torah nous explique pourquoi. Ok ? Rabbi Akiva va nous expliquer dans le Sefer Yetzirah comment. D'accord ?
Comment c'est le ralliement à l'éternité, c'est ça ?
Exactement. Exactement. D'accord ?
Mais l'éternité, c'est Meshichiyut en hébreu ?
Nitzriyut.
Comment ?
Nitzriyut.
Quand on dit on est ou Meshichiyut, ça veut dire où
ça, ça veut dire qu'il est messianique.
Oui, mais c'est la même chose que Nitzri, non ?
Non. Le messianisme est une étape dans l'éternité, mais ce n'est pas la finalité en soi. D'accord ?
J'ai une question.
Attends, il y avait Gabriel Lévy qui a levé la main déjà.
Oui,
oui. Quel est le... C'est à moi de parler? Quel est le bien qu'on a sorti de Yavan?
Quel est le bien qu'on a sorti de Yavan? Ouh là là!
Absolument. Non, non, bien, Alpitora.
Oui, oui, bien sûr, Alpitora. On a sorti de Yavan l'importance de l'esthétique. C'est très important. Noyo shel olam, c'est eux qui ont développé cela. Nous, on sait que le Beth Amikdash est censé être l'endroit qui représente la beauté dans le monde. La Grèce a mis en avant l'histoire de la beauté. Le problème, c'est qu'eux, ils ont mis que ça en avant. Donc nous, évidemment, on ne va pas dire que ce qu'ils ont fait, eux, c'est bien, mais le fait de développer la beauté, par exemple, c'est très important. Yavan a développé la chokhma, très important de développer et de démocratiser la chokhma. Yavan a mis en place les sciences de manière exacerbée, c'est très important pour comprendre le fonctionnement du monde. La démocratie, c'est très important. Donc, il y a plein de choses que Yavan a apportées au monde qui sont très importantes. Évidemment, si on les garde uniquement dans leur version grecque et romaine, eh ben on a perdu quelque chose de fondamental, le lien avec Dieu. Eux, ils ont enlevé le lien avec Dieu. Mais nous, en remettant le lien avec Dieu, eh ben, ces choses qu'ils ont données, on peut les sortir du rôle et les amener au Kodesh.
Gabriel.
Oui, alors moi, Rav, je voulais juste essayer de mieux comprendre pourquoi c'est la Torah du Sod qui nous permet de sortir d'exil.
Ah bah oui, mais ça, c'est la semaine prochaine. Là, je n'ai pas dit encore, j'ai juste teasé. Non, mais concrètement, on a quand même dit ce matin que l'idéal, c'était de se rattacher à l'éternité, à la dimension du Netzar. Or, l'exil, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas du domaine de l'éternité, c'est-à-dire que ça ne peut pas rester. Nous dit le Maharal de Prague, dans le premier chapitre de Netzar Israël, que la normalité des peuples, c'est que chacun a sa propre terre et peut s'auto-déterminer. Ce n'est pas normal, l'exil. Donc, comme toute chose qui n'est pas normale, ça ne peut pas rester. Ainsi donc, pour pouvoir traverser cette période, il faut que tu saches quel est le point de départ de la normalité et vers quel point tu vas arriver.
Et ces choses-là ne font pas partie de la Torah chez Birtav ou la Torah chez Baalpé.
Ça fait partie de la Torah chez Birtav, bien sûr, puisque, comme on l'a dit, la Torah chez Birtav, voilà, c'est la prophétie et la Kabbalah, oui, est la suite de la prophétie. Mais par contre, ça ne fait pas partie de la Torah chez Baalpé. La Torah chez Baalpé, elle nous apprend comment on fait Shabbat. Et la Torah chez Baalpé, bien sûr que faire Shabbat, c'est dévoiler l'éternité. Mais la Torah chez Baalpé va nous dire que Shabbat, tu vas le faire aussi en exil.
Alors pourquoi est-ce que c'est cette Torah-là qu'on étudie justement en exil? Si c'est la Torah du Sod qui nous permet...
Les deux, mon capitaine.
Elle est quand même réservée à une certaine élite, la Torah du Sod.
Ah, elle était réservée à ceux qui étaient prêts à la comprendre.
Mais c'est dernièrement, il n'y avait pas Horod Vekelim à l'époque.
Pardon?
Il n'y avait pas Horod Vekelim.
Il n'y avait pas Horod Vekelim, mais il y avait, dans le monde séfarade, il n'y a jamais eu de véritable arrêt de l'étude de la Kabbalah. Ça faisait partie du truc. Dans le monde ashkénaze, ça s'est arrêté, Zénachon. Et maintenant, il y a Horod Vekelim. Donc c'est bon.
Sarah, vous avez une question? Sarah, votre micro est éteint.
Oui, pardon. Oui. Bonjour, Rav. En fait, vous avez expliqué quelque chose qui m'a un peu troublé tout à l'heure, en disant que, en fait, Rabbi Akiva avait atteint le 50e degré.
Oui.
Peut-être que je me trompe, mais j'avais en tête que si on atteignait le 50e degré, c'était la Géoula.
Ben oui, c'est ce qu'il faut faire, Nahon. Le problème, c'est que Rabbi Akiva, il l'a atteint tout seul. Ça ne suffit pas tout seul. C'est pour ça qu'il l'a transmis. Le moyen,
il n'a pas réussi à transmettre à l'ensemble du peuple.
Les athlètes, il l'a transmis à Rabbi Shimon, qui va nous donner le moyen de commencer à nous en approprier.
Ok. Merci.
Bechavod, Shmuel Shushan, Gaël.
Oui, en fait, parce que j'étais pas là les cours d'avant, mais je vous entends parler de Yafet, de Shem, comme Alexandre le Grand, et comme une métaphore aussi de Alexandre le Grand et de Shimon HaTzadik. Et en fait, la bracha de Noir, c'était ça, c'était que Yafet, il reste dans les tentes de Shem, c'est ça, non? Donc, oui, en fait, la beauté, elle doit être recouverte par la prophétie, en gros.
C'est ça.
Sinon, détachée de la tente, elle est un petit peu, elle est ton libre et elle va vers sa catastrophe.
Tout à fait.
Ah, voilà, c'était juste ça.
Ah, vous avez une question dans le chat de M. Ben Saïd. Peut-on avoir des précisions sur Elisha Ben Abouya?
Oui, bon, Elisha Ben Abouya, personnage haut en couleur, c'est-à-dire ce personnage qui est donc de la même génération que Rabbi Akiva, qui fait partie des très grands maîtres du judaïsme, avant de dévier. Alors pourquoi il dévie? Il dévie parce qu'effectivement, on a dit qu'il va aller voir un petit peu là-haut, et en fait, il dévie parce qu'il voit un homme, un enfant, qui a reçu l'ordre de son père d'aller lui chercher, d'aller faire mitzvah de Shiluah Haken. Donc il se baladait en forêt avec son fils, et le monsieur, il voit un nid d'oiseaux dans un arbre, et donc il lui dit, bah, écoute, vas-y, monte et fais la mitzvah de Shiluah Haken. Donc il monte, il tombe de l'arbre et meurt. Et à ce moment-là, il dit, attends, je ne comprends pas, il y a deux mitzvot, un Shiluah Haken et l'autre Kibud Avraham, où dans les deux cas, on me dit que le salaire, c'est tu vas avoir une longue vie. Et il a fait les deux et il est mort. Puisque c'est comme ça, la dimension d'éternité, eh ben, je ne peux pas la trouver là-bas. Seulement, va nous dire le Talmud, ouais, mais attends, n'importe quel personnage qui a étudié un petit peu la Torah, se dit, ok, ben d'accord, il est mort, mais tu ne sais pas, il y a peut-être d'autres choses à prendre en considération, et on n'est pas Dieu. Nous disons tel que le problème de Elisha Ben Abouya, c'est que Ayu Sifre Minim Yotzim Micheko. C'est-à-dire quoi, Sifre Minim Yotzim Micheko? C'est-à-dire qu'il avait des livres d'Aristote, j'exagère, évidemment, il n'y avait pas Aristote, pas les livres d'Aristote, mais quoique, pourquoi pas. Mais il y avait des livres, des minimes qui sortaient de ses poches tellement il en avait. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Elisha Ben Abouya était rempli de culture mine, de culture qui n'était pas la culture d'Israël. Il s'était rempli d'une autre culture tellement qu'elle l'avait même, elle sortait de ses poches. Et donc, finalement, quand il a été confronté à un paradoxe apparent, eh bien, il était tellement imprégné de cette culture extérieure qu'il ne voyait pas le lien de l'éternité, qu'il a dit, c'est terminé, je ne veux plus de lien avec quoi que ce soit. C'est bien.
Et M. Ben Saïd qui lève la main. Alors, une dernière question. M. Ben Saïd. Alors, on ne vous entend pas. Alors, on a un problème de micro. De micro. Ah, je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Est-ce qu'on peut dire de Gabriel Lévy?
Est-ce qu'on peut dire que celui qui n'inclut pas la Torah d'Assot sans son étude, dans son étude, hein, a plus de mal à s'associer aux valeurs de la Géoula, Shvatia, etc. Ben, totalement. Totalement. Quelqu'un qui n'a pas Torah d'Assot n'arrive pas à comprendre la dimension de la Géoula. Et c'est la raison pour laquelle les seuls rabbins qui se sont opposés au sionisme dans ces balbutiements, c'était les rabbins ashkénazes qui n'avaient pas étudié la Kabbalah et qui s'étaient opposés à la Kabbalah. Dans tout le monde des Mekoubalim, on était à fond pour ce qui se passait. Et dans tout le monde séfarade, on était, qui n'avait pas arrêté d'étudier la Kabbalah, eh bien, le sionisme a été accueilli à bras ouverts. Donc évidemment que quelqu'un qui n'étudie pas ces textes-là, eh bien, sa compréhension de la Géoula est erronée, bien sûr.
Toda Rabba Rafizon.